VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En RDC, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a été hué ce mardi par des centaines de personnes lors de son passage à la mairie de Beni, ville de l'Est du pays, théâtre ce week-end du massacre de plusieurs dizaines de civils. C'est au cri de corrompu, alternant avec démissionné, que M. Matata Ponyo a achevé son court discours à la mairie où il venait de boucler une visite éclair de plus de 3 heures dans la ville. Je suis venu vous présenter les condoléances du président de la République, Joseph Kabila, a déclaré le chef du gouvernement en promettant d'envoyer sur place le ministre des Affaires sociales pour une aide de l'État aux rescapés du massacre. Monsieur Matata Ponyo était accompagné d'une délégation comprenant le chef d'état-major des forces armées congolaises, le général Didier Etumba, et le chef de la police, le général Charles Bisengimana. Pour plus de détails sur la situation à Beni, Nicolas Pinot a contacté Nikes Kibel Beloka, rédacteur en chef du journal local Les Coulisses.
L'ambiance est toujours morose parce que les deuils continuent. Vous savez, le gouvernement avait décrété 3 jours de deuil. La délégation est arrivée et elle a visité les lieux où on a tué. Mais le problème va au-delà de cette visite. Le président Kabila a été ici 3 jours avant les tueries. Je pense que pour la population, sa présence n'est pas nécessaire. Au moment où il a envoyé la délégation qui pourrait trouver des solutions au problème, le président est à Goma. Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Pour la population, ce qui compte, c'est qu'on mette fin au massacre. Le président avait promis et on attend des moyens.
Justement, quel est l'état des moyens des forces de sécurité sur place à Beni?
L'état des moyens, c'est faible. Parce que d'abord, les opérations durent 2 ans. Il n'y a jamais eu d'évaluation de troupes. Et on ne sait pas, il y a eu combien de morts, combien de blessés. Il faut faire une évaluation. Ça, c'est de 1. Et il faut faire la relève des troupes. Il faut équiper la police urbaine et la police militaire. Pour intervenir, vous savez, la ville elle-même, la police n'est pas équipée, la police n'a même pas un véhicule pour faire la patrouille. La police militaire, même chose. Donc il faut d'abord qu'on pense à doter la police urbaine et la police militaire des véhicules pour intervenir au moment où la population a besoin de ces services. Il y a des bataillons qui n'ont plus l'effectif voulu. Donc il faut vraiment faire tout un toilettage pour comprendre il y a combien de militaires au front et en ajouter d'autres en cas de besoin.
Concernant l'identité des assaillants, les ADF Nalu, ces rebelles ougandais, sont souvent pointés du doigt. Est-ce que vous croyez à cette thèse?
Oui, il faut dépasser cette appellation de rebelles ougandais. C'est le djihad qui est régional parce que le recrutement s'est fait en Tanzanie, au Kenya, au Sud-Soudan, en Ouganda et en RDC. Et il faut arriver à monter au deuxième palier pour comprendre que le terrorisme qui se passe ici est régional. Ce n'est plus un problème des rebelles ougandais. C'est vraiment régional. Il y a 5 ou 6 ou 8 nationalités qui se retrouvent dans les forêts de Beni.
Nikes Kibel Beloka, rédacteur en chef du journal Les Coulisses à Beni, en RDC. Au Gabon, Guinzouba Ndama et Casimir Oyemba, 2 ténors de l'opposition, ont décidé de s'aligner derrière Jean Ping, l'ex-président de la Commission de l'Union africaine, pour faire face à Ali Bongo Ondimba lors de l'élection présidentielle du 27 août. Les 3 hommes ont tenu aujourd'hui un grand meeting à Libreville pour mobiliser les troupes en vue du scrutin à un seul tour. Idriss Fall a joint sur place notre confrère Abel Mimongo du journal L'Union, le quotidien national gabonais.
Je suis même justement dans ce meeting-là. Les leaders de l'opposition sont arrivés. Hier, il y avait des tractations de couloir qui ont duré jusqu'à 4 du matin. Tractations au cours desquelles les principaux leaders de l'opposition ont décidé de rallier Jean Ping, à savoir M. Guizouba Ndama, qui est un transfuge du PDG. Il a créé l'héritage de modernité. Il y a Casimir Oyemba, qui était un ancien premier ministre et militant de l'Union nationale, le parti du défunt André Mbamba et Zakari Mboto. L'Union nationale a ceci de particulier, c'est la principale formation politique de l'opposition. Ayant justement l'Union nationale, Guizouba Ndama, qui est une personnalité qui avait héritage de modernité et ils sont un courant du PDG, donc voilà, ils vont faire alliance avec M. Jean Ping.
Est-ce que vous pensez que ce sera assez pour faire basculer la balance et prendre le pouvoir à Ali Bongo Ondimba?
Même bien avant le ralliement, M. Ali Bongo disposait de très peu d'atouts, mis à part l'atout institutionnel. puisqu'il disposait de la machine institutionnelle, la machine administrative. Donc il comptait davantage sur cette machine-là plutôt que sur l'adhésion de la population. Maintenant, au cas où l'idée serait de passer en force, ils auraient vraiment du mal à faire passer la PU, puisque au Gabon, ça a toujours fonctionné sous forme de personnalité. Vous savez, M. Omar Bongo Ondimba, donc le prédécesseur de M. Ali Bongo Ondimba, lui, il fonctionnait sur la base des personnalités par région. Et chaque personnalité représentait une région bien déterminée. Et il y a une fraction terrible au sein du PDG. Et donc, les populations s'appuient justement sur cette personnalité-là. Mais sur quelle personnalité Ali Bongo va-t-il s'appuyer pour avoir une garantie de l'élection? Là, c'est toute la question qui se pose en ce moment.
Ils sont tous d'anciens caciques du régime d'Omar Bongo. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau?
Vous savez, la population aujourd'hui ne cherche pas à savoir si ceux qui arrivent vont leur apporter quelque chose de positif. C'est dommage de le dire, mais c'est la stricte vérité. La population en a marre de savoir que c'est la famille Omar Bongo qui est au pouvoir depuis 50 ans. Ils ont besoin de changement. Est-ce que ce changement va leur apporter quelque chose de positif? Là, c'est toute la question qui se pose.
À chaque élection, après les résultats, il y a des violences, surtout à Port-Gentil. Il n'y a pas de risque pour cette élection?
Ah oui, le risque est très fort. Effectivement, si M. Ali Bongo décide de passer en force, le risque est très, très fort d'une explosion vraiment généralisée. Alors là, ça ne sera pas seulement à Libreville ou à Port-Gentil, ça va être dans l'ensemble du territoire.
Abel Mimongo du journal gabonais L'Union, le quotidien national du pays.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Zambie, vague d'interpellation après l'annonce de la victoire du président sortant Edgar Lungu au présidentiel. Quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le sud du pays. Leur faute, avoir manifesté contre la réélection du président Lungu lundi. Bagassi Koura.
Dès l'annonce officielle le lundi des résultats donnant le président sortant Edgar Lungu vainqueur de la présidentielle avec 50,3% des voix, des manifestations ont spontanément éclaté dans la province méridionale du pays. C'est un bastion de Hakainde Hachilema, l'opposant battu avec 47,6% des voix. Beaucoup dans cette province ne s'attendaient pas à une défaite du candidat de l'opposition. Des émeutes ont donc éclaté dans plusieurs villes de la région, conduisant à l'arrestation de 150 personnes. C'est ce qu'indique le commissaire de la province, Godwin Firi. Dans un communiqué, il précise que les manifestants ont bloqué les routes avec des troncs d'arbres et des pneus en feu. L'UPND, le Parti uni pour le développement national de Hichilema, a annoncé dès lundi qu'il allait contester le résultat devant les tribunaux, assurant avoir des preuves de la manipulation des chiffres. Selon la Constitution, le président Edgar Lungu ne peut prêter serment avant que ce litige ne soit réglé.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Turquie, le parquet turc a requis deux peines de prison à vie à l'encontre de l'ex-imam Fethullah Gulen, accusé d'avoir ourdi le putsch avorté du 15 juillet dans le pays. Le point avec Nathalie Barge.
Le prédicateur, qui vit en exil aux États-Unis depuis 1999 et dont Ankara réclame l'extradition, est accusé d'avoir tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force et formé et dirigé un groupe terroriste armé, rapporte l'agence de presse Anadolu. Une peine supplémentaire de 1900 ans d'emprisonnement est aussi requise à son encontre. Fethullah Gulen nie toute implication dans le coup de force. Il est accusé depuis des années d'être à la tête d'un réseau terroriste appelé FETÖ qui aurait infiltré les institutions et services de renseignement. La FETÖ aurait collecté des fonds d'hommes d'affaires sous couvert de dons et transféré cet argent aux États-Unis via des banques aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie et en Allemagne. Une enquête a été ouverte en septembre 2015. 111 personnes ont été visées et 13 suspects sont toujours en détention préventive.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a présenté lundi dans l'Ohio les grandes lignes de son plan de lutte contre le groupe État islamique. Son discours était très attendu après avoir affirmé la semaine dernière que les politiques mises en œuvre par le président Barack Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton ont favorisé l'émergence de ce groupe terroriste. Donald Trump a dit que s'il est élu, il convoquera un sommet des leaders mondiaux pour élaborer un nouveau plan en vue d'écraser et de détruire le groupe État islamique. Il s'est engagé à travailler avec la Russie et l'OTAN à cette fin. Et puis, Donald Trump a dit qu'il bloquera aussi l'accès des groupes terroristes aux réseaux sociaux qu'ils utilisent comme moyen de recrutement. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.